Bonjour Julien Jacob.
Bonjour.
Vous avez une dizaine d'années d'expérience dans les médias interactifs que vous mettez aujourd'hui à disposition de divers médias, médias web ou médias cross-média, on va dire. Une expérience opérationnelle donc que vous avez menée pour le compte du Monde pour réfléchir sur l'avenir du Poste, ce pure player de l'information que vous mettez à disposition aujourd'hui du point de l'Express. On avait envie d'avoir votre avis sur les modèles possibles pour ce qu'on appelle les nouveaux médias, c'est-à-dire ces pure players de l'information que sont Rue 89, Mediapart, Bakchich et autres. Lorsque vous avez commencé la réflexion pour le Poste, qu'est-ce que vous avez posé sur la table en matière de modèles différents et possibles ?
La première réponse pas agréable, c'est qu'il n'y a aucun modèle tout fait pour un média. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est de regarder quels sont les types de contenus qui vont aller générer quel type d'audience, qui va être monétisable comment. Donc il y a des modèles, il y a un premier modèle qui est un modèle média assez traditionnel, qui est j'ai la capacité de générer une audience très importante, plutôt CSP+, plutôt masculine, plutôt acheteuse, je vais aller le monétiser vers une certaine forme de publicité. Ou alors, je suis sur un domaine beaucoup plus vertical, beaucoup plus professionnel, où là, la puissance est évidemment beaucoup plus difficile à obtenir. Et là, je vais plutôt me diriger vers des modèles freemium, où on commence par du gratuit, et puis au bout d'un moment, on réussit à faire rentrer l'internaute dans un modèle payant parce qu'on arrive à lui offrir une valeur ajoutée qui va être cohérente avec la notion de enfin ou l'action de payer. Donc c'est un peu ce que fait le Financial Times par exemple sur ce dernier modèle en Angleterre où eux ils ont à la fois un accès gratuit pour une partie de leur info et puis très très rapidement ça devient payant. Maintenant quand on est dans des médias puissants de masse, c'est vrai que la partie payante elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre et que donc on se retrouve quand même majoritairement sur un modèle de publicité avec toutes les variantes qu'on peut connaître dans la publicité.
Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'en France, il y a eu de grosses réussites en matière de vente d'informations de la part des médias traditionnels sur le web.
Mais non, parce que je crois que quand la question est posée ainsi, comment je vais faire pouvoir payer mon utilisateur, elle est de toute façon mal payée, parce que mal posée, justement, parce que la question c'est pas celle-là. La question c'est pourquoi l'utilisateur est prêt à payer pour une information qui lui est soit vraiment indispensable, soit qu'il a pas ailleurs. Et là, on essaye de trouver des réponses. Mais quand il y a une information gratuite à un clic du site dont on parle, c'est évidemment très difficile de la rendre payante, à moins de trouver une différenciation très très forte. Et le problème, c'est que dans l'info, bah, la différenciation, elle est très dure à obtenir, parce que ça, elle tient de quoi ? La rapidité, c'est plus possible, puisqu'on compte en secondes. La différenciation sur le ton, ça se retrouve encore. Alors, il y a des exemples comme Slate, comme Bakchich, peut-être comme Rue 89 aussi, qui agrège une audience assez différente, ou en tout cas qui recherche quelque chose de différent. Mais même quand on a cette première étape, c'est quand même très très difficile de rendre une info payante. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, parce qu'il y a quand même l'exemple d'Arrêt sur Image, qui finalement, avec une marque très forte, dans la personnalité de Schneiderman, avec un contenu quand même assez original qu'on ne trouvait pas ailleurs, a finalement réussi à faire une offre payante. Alors c'est pas ça qui en fait un modèle économique énorme, mais au moins ça permet de faire tourner une boutique.
Ça veut dire qu'il faut éviter l'info généraliste, aller vers une cible avec un vrai ton, a priori.
Soit on a la capacité d'aller chercher une audience très importante en info généraliste, et dans ce cas-là, il faut être dans le top 3 de l'info généraliste pour rentrer sur le radar des annonceurs, ce qui veut dire aujourd'hui aller chercher entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques sur Nielsen. Autant dire que c'est pas une mince affaire. C'est pas impossible. Il y a des groupes qui ont largement la capacité. Bon, déjà, il y en a qui y sont déjà aujourd'hui. Il y a des groupes qui ont largement la capacité de le faire. Mais c'est vrai que c'est plutôt difficile d'envisager ça sur un pure player. Cela étant dit, c'est le contre-exemple du Huffington Post. Parce que le Huffington Post aux États-Unis a dépassé USA Today, a dépassé le Washington Post et en passe de dépasser le New York Times. Va faire 30 millions de dollars en chiffre d'affaires publicitaire cette année. Il dit qu'il va en faire 100 l'année prochaine. Il faut savoir que le New York Times .com fait 150 millions de dollars. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ils vont probablement dépasser le New York Times en trafic et les approcher très fortement en revenus. c'est le modèle que regarde tout le monde en se disant, ben, regardez, c'est possible. C'est quand même soumis à un certain nombre de facteurs à la fois d'opérationnel, d'être quand même extrêmement bon dans l'opérationnel, de beaucoup de chance, de manque aussi de concurrence sur certains sujets, qui est pas, je trouve, un phénomène quand même réplicable aussi facilement que ça.
Un dernier mot, Julien Jacob, est-ce que dans les médias que vous conseillez, que ce soit Le Monde, Le Point ou L'Express, on est capable à l'origine de sortir du fameux ratio traditionnel du financement des sites web?
Moi, je suis pas sûr qu'il faille en sortir. Le ratio est probablement le mauvais, c'est-à-dire de compter des visiteurs uniques à la tonne pour donner, pour en déduire un potentiel commercial. Moi, j'ai toujours été contre ce calcul. À un moment, on disait en France, il faut 1 million de visiteurs uniques, il faut pour commencer à avoir de la publicité, etc. C'est la première étape, comme je disais tout à l'heure, pour être visible sur un radar. Mais derrière, de toute façon, les achats, ils se font pas en nombre de pubs, ils se font pas en nombre de visiteurs uniques, ils se font en nombre d'impressions qui doivent être délivrées. Derrière, il y a des mesures, des outils de mesure pour vérifier l'efficacité publicitaire. Et donc, la stratégie qui consiste à accumuler les millions de visiteurs uniques, comme le font certains médias en France, pour arriver dans les premières places d'une liste, n'est pas ça qui fait un modèle économique. Le modèle économique, ça reste, sur Internet comme partout ailleurs, la capacité d'agréger une audience de qualité avec un contenu de qualité qui va intéresser des annonceurs de qualité. Et ce modèle-là, il a toujours marché, enfin il a marché sur le papier, il marche en télé, il marche aussi sur Internet, et je pense que sur Internet on a tendance à faire un petit raccourci parce que on a des mesures qui sont immédiates et directes et simples, voire simplificatrices, et donc on se dit, ben voilà, on va faire le ratio. Le million ou les millions de visiteurs uniques, ce n'est qu'une première étape, mais si vous n'avez pas derrière une audience en affinité, une audience qui... donc en affinité avec la marque, donc il y a une répétition avec la marque média qui va venir plus souvent, qui va être abonné, qui va interagir, etc. De toute façon, la publicité, elle ne va pas marcher. Mais ce modèle, il ne faut pas tout jeter ensemble. Ce modèle publicitaire, même si on connaît une pression à la baisse sur les CPM parce qu'il y a une offre d'inventaire absolument énorme qui vient notamment des réseaux sociaux ou des portails, c'est pas parce qu'il y a une pression sur les inventaires qu'il faut arrêter de se différencier. Et c'est un peu le problème des médias aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut faire, c'est démontrer que quand je suis sur un média comme Le Monde en recherche d'informations et que j'ai une publicité qui apparaît devant moi, je suis pas du tout dans le même état d'esprit que quand j'en suis à mon 15e clic dans la minute, que je suis sur un réseau social et que j'ai pas du tout envie d'interagir avec du contenu publicitaire, que au contraire je suis là en train d'interagir avec mes amis, et les deux doivent évidemment coexister. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire au geste, donc qui rassemble les éditeurs de médias, enfin d'information, à la fois information généraliste et magazine, pour créer des formats publicitaires et des interactions publicitaires qui se différencient de tous les inventaires qu'on peut trouver sur le marché. C'est ce qu'a fait aussi l'Online Publisher Association aux États-Unis, qui a créé des formats publicitaires en disant ça, ce sont des formats spécifiques aux médias, parce que dans le média, il y a un état d'esprit qui est de la recherche d'informations qui fait que on a une efficacité par rapport à la publicité qui est sans commune mesure avec des sites dans lesquels on n'est que en passage. Et c'est des formats qui ont connu beaucoup de succès aux États-Unis, ou d'ailleurs ça a été demandé aussi par les annonceurs, qui était de dire démontrez-nous que dans des espaces premium, il y a des écrans où nos marques vont pouvoir interagir. Et quand on arrive à ce niveau-là, on arrive à multiplier par 10 ou par 20 le fameux CPM dont tout le monde parle, dont on ne parle que de moyenne, mais sachant qu'il y a une disparité tellement forte entre les inventaires premium et les inventaires bas de gamme, on va dire, que la moyenne ne veut quasiment plus rien dire. Donc, pour résumer, moi, je pense pas du tout que la publicité sur Internet soit morte. Je pense qu'elle a besoin de se structurer. On a besoin de montrer la différence entre un, un endroit premium et un endroit qui l'est moins. Ça ne veut pas dire que l'endroit qui l'est moins, il est forcément sale. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'inventaire à sa disposition, mais qu'il y a une interaction qui est de moindre qualité, donc qui peut se rattraper sur le volume. Mais il ne faut pas que les espaces premium aillent chercher du volume à tout craint, parce que de toute façon, ils vont baisser la qualité de l'interaction et donc baisser leur valeur par la même occasion. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que ce modèle-là, dans une hyper concurrence qu'on connaît aujourd'hui sur le web, dans chaque secteur, il y a la place pour 3 ou 4 acteurs, et les autres, malheureusement, ont beaucoup de mal à vivre.
Merci Julien Jacob pour cet éclairage. À bientôt.
Merci.